En train de voir comment le message de Jésus a été répandu à travers le pays avec les premiers chrétiens. Et aujourd'hui, on va voir en particulier comment le Seigneur a envoyé Philippe.
Merci aux enfants et à tous ceux qui les ont encadrés, accompagnés. Je vous invite, pour commencer notre méditation ce matin, à lire un texte. Je pense que c'est la diapositive suivante. On n'a pas envie de travailler ce matin. Voilà. Bon, on va l'aider un petit peu. Voici notre texte ce matin. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Les chapitres 12 et 13 de l'évangile de Luc, que je vous invite vraiment à lire d'un seul bloc, dont j'ai vraiment beaucoup profité ces derniers temps, apparaissent comme une séquence extrêmement dense, d'échanges et de discussions, vous le verrez, tout à fait débridés. Et c'est aujourd'hui de cette séquence que notre passage est tiré. On peut dire que dans ces chapitres, ça part dans tous les sens. Jésus prend l'initiative, à travers diverses paraboles, de délivrer finalement un seul message. Et ce message, c'est « Tenez-vous prêts ». La chronologie des évangiles situe ce passage dans la dernière année du ministère de Jésus, voire, autant qu'on puisse vraiment le préciser, 6 mois avant sa mort et sa résurrection. Et le temps commence à presser. Les affrontements avec les pharisiens et les docteurs de la loi ont débuté. Et on sent une sorte d'urgence dans ce que communique désormais Jésus dans ses chapitres 12 et 13. Tenez-vous prêts. Mais voilà, Jésus est extrêmement populaire. Les foules le suivent. Par milliers, est-il indiqué au chapitre 12, au point de s'écraser les uns les autres. C'est le texte qui le dit. Et ces foules s'adressent à lui parce qu'il est de plus en plus célèbre. À vue humaine, on dirait au jour d'aujourd'hui que c'est l'homme qui monte dans le pays. Et les questions fusent. Ils ont Jésus sous la main. L'occasion est trop belle. On a entendu tout à coup un cri dans la foule. « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Ben voyons, si vous avez un homme public sous la main, pourquoi ne pas en profiter ? Jésus, c'est un peu le député que l'on va voir pour obtenir un appui, une solution à un problème. Or, aujourd'hui, Jésus n'est pas là pour ça. « Qui m'a établi, va-t-il répondre, pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Pourquoi Jésus réagit ainsi ? Pourquoi ne prend-il pas en compte cette demande d'arbitrage ? Parce que je l'ai dit, il n'est pas là pour ça. Dans le moment qui précède, au milieu de toute la foule, il vient de dire à ses disciples des choses tellement fortes et tellement lourdes. Et je lis ces versets 8 à 11 au chapitre 12. « Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. » Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » Voilà ce que Jésus vient de dire à ses disciples. C'est lourd, c'est fort. Et au milieu de cela, on entend quoi ? « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Le décalage est total. Et Jésus n'est pas là pour le réduire, mais au contraire pour le mettre en évidence. Il vient révéler une autre réalité. Il vient ouvrir à une autre vision des choses. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Jésus a méprisé cette question posée à propos de l'héritage ? Pensez-vous qu'il l'a ignorée ? C'est tout le contraire. Il a remis cette question dans une toute autre perspective immédiatement. Et c'est le verset 15 du chapitre 12. Le verset 15 du chapitre 12 où il dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » La question n'a pas été ignorée. Et il va même aller plus loin puisque dans la parabole qui suit immédiatement, de l'homme riche qui amasse ses richesses dans ses greniers, eh bien Jésus prolonge sa réponse. Non, Jésus n'a pas négligé de répondre. Il a répondu dans un sens qui n'était pas attendu. Il a choisi un autre registre. Ça va trop vite, mais ce n'est pas grave. Notre passage aujourd'hui, vous l'avez en tête certainement, il se situe aussi dans ce registre du décalage. Et si on le relit, parce qu'il est lourd, il est important, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée, qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Alors personnellement, en tant qu'être humain, je le ressens, le traumatisme. Je suis parmi ces quelques personnes qui viennent voir Jésus, je me mets à leur place, parce que lui semble capable au moins d'entendre mon trouble, parce que je peux lui dire à quel point cette tragédie qui vient de se passer, ça me fait mal. Concrètement, des Romains sont entrés dans la synagogue, ils ont versé le sang. Ils ont massacré des pèlerins galiléens venus à Jérusalem. Il y avait du sang partout. Celui des hommes, celui des animaux sacrifiés. Et tout ce sang se mélangeait. Aujourd'hui, en 2018, je pourrais dire, il y a 15 jours, et c'est vrai, les terroristes sont entrés dans 3 églises en Indonésie. Ils ont tué aveuglément hommes, femmes et enfants. En 1944, j'aurais pu dire, les Allemands sur le chemin du retour vers l'Allemagne ont enfermé les habitants du village dans l'église à Oradour-sur-Glane. Ils ont massacré hommes, femmes et enfants et ils ont mis le feu à l'église. Oui, je peux parfaitement m'identifier à ces personnes qui viennent voir Jésus et qui disent « Pourquoi ? Pourquoi eux ?» Et tout de suite, la question, la même question est sur toutes les lèvres, voire sur mes lèvres. Est-ce que tout cela est juste ? Devant les grands traumatismes, devant les grandes épreuves, je cherche une logique qui me console. Je veux une explication qui me rassure. Mais il n'y en a pas. Et Jésus n'en donnera pas. Décevant, hein ? Dans ce passage, pourtant, Jésus montre qu'il comprend le trouble de ses interlocuteurs. Vous cherchez le pourquoi. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres, parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non. Et je vais même vous donner un autre exemple, et c'est lui qui le fait. Ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée, dont vous ne me parlez pas. Moi, je vous en parle. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non. On a l'habitude de commenter ce passage en relevant que Jésus fait à la fois les questions et les réponses. C'est vrai. Il ne laisse même pas le temps à ses interlocuteurs d'interroger. On peut se demander pour quelles raisons il ne leur laisse même pas le temps de dire leur pourquoi. Sans doute connaît-il déjà non seulement leur pourquoi, mais aussi leur parce que. Jésus sait trop bien ce que sont les explications toutes faites, les rapports de cause à effet qui sont dans leur schéma de pensée. S'il leur arrive cela, c'est que c'est pas un hasard, c'est la conséquence forcément de quelque chose. Il n'y a pas de raison. Jésus réfute radicalement l'explication des bonheurs et des malheurs par les mérites ou les fautes de chacun. Non, dit-il, Dieu n'envoie pas de punition sur les pécheurs, il les appelle à changer de direction. Et nous allons revenir sur ce sujet. Nous-mêmes, combien aimerions-nous avoir une explication à toute chose ? Pouvoir faire entrer dans des cases logiques les malheurs qui nous arrivent, nos accidents de vie, nos souffrances. Pourquoi ? Quelle quantité d'énergie dépensons-nous à chercher les raisons de ce qui arrive et dans quel but ? Si les Galiléens étaient coupables, si les ouvriers qui travaillaient près du bassin de Siloé étaient coupables, alors au moins l'horreur serait moins insupportable. Si c'est mon frère qui ne peut pas partager l'héritage, alors cela m'exonère et me rassure sur ma propre justice. Et elle fonctionne à merveille, cette auto-justification. C'est l'autre le coupable. Alors interrogeons-nous nous-mêmes ce matin ici, quelles conséquences aurions-nous nous-mêmes tirées de ces deux épisodes du massacre des Galiléens et de la tour de Siloé si nous en avions été les contemporains ? Que nous étions, nous, peut-être des justes, simplement du fait que nous serions restés en vie ? Et aujourd'hui, par exemple, et je me pose souvent la question, quelles conséquences tirons-nous du fait que nous échappons à un accident, à un attentat, à un malheur quelconque ? Que nous sommes épargnés parce que nous serions plus justes que les autres qui sont victimes ? En quoi pouvons-nous dire que nous sommes bénis plus que d'autres parce qu'au milieu de 50 morts sur les routes un week-end d'été, nous ne figurons pas. Ces 50 morts, pensons-nous qu'ils n'étaient pas sous le regard aimant du même Dieu ? Notre pensée automatique, rassurante, auto-justificatrice, Dieu la connaît avant même que nous la prononcions. Et il ne veut pas nous laisser dans l'illusion de notre propre justice. Jésus dit quelque chose de fort. Tenez-vous prêts, c'était le sens de cet ensemble de messages et de paraboles délivrés par Jésus dans ces moments. Et je l'ai souligné tout à l'heure, Jésus délivre ses messages et ses paraboles dans une certaine forme d'urgence. S'il appelle à changer d'attitude, c'est maintenant. Alors, vous périrez tous de même. Comment les interlocuteurs de Jésus ont-ils bien pu le comprendre ? Est-ce qu'ils avaient à craindre de se faire massacrer comme l'avaient été des Galiléens ? Est-ce qu'ils avaient à redouter de se faire ensevelir sous les gravats d'une tour, comme cela s'était passé à Siloé ? Bien sûr que non. Et ce n'est pas ce que dit Jésus. Ce qu'ils avaient à craindre surtout, c'était de mourir dans le même état de pensée que celui des victimes dont ils parlent. C'est-à-dire enfermés dans la même vision du monde. Alors, quelle est cette vision du monde dans le judaïsme de l'époque ? On pense généralement que les catastrophes sont les conséquences des péchés, qu'il n'y a pas d'effet sans cause, qu'il faut rechercher les raisons des malheurs dans le passé des personnes, voire de leurs parents. Il y a bien une raison. D'ailleurs, est-ce que certains de nos contemporains aujourd'hui ne pensent pas de la même manière ? Non, leur dit Jésus, ils n'étaient pas plus coupables que vous, ces Galiléens et ces ouvriers de Siloé. Changez d'attitude, leur dit Jésus, sinon vous mourrez dans cette même conviction, dans cette manière de penser, dans cette fatalité paresseuse. Si vous ne changez pas d'attitude, vous mourrez sans avoir compris que Dieu est un père qui n'abandonne pas ses enfants à l'enchaînement des causes et des effets, mais qui veut rompre un cercle infernal. Il est possible, c'est ce que dit Jésus, de ne pas mourir de la même manière, sans savoir, sans connaître, sans comprendre. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous mourrez de la même manière que ces Galiléens, ces ouvriers de Siloé, sans savoir, sans connaître, sans comprendre. qu'elle fait mal, hein, cette attitude fataliste, et sans doute parce qu'elle marque profondément la société d'alors, Jésus va en trouver une illustration un peu plus tard. Et je lis, dans la suite de ce chapitre 13, un texte que vous connaissez bien, les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler ». Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces termes, hypocrite. Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires. Et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Quelle est la logique à l'œuvre dans cet épisode que nous venons de lire? Une femme infirme depuis si longtemps, on s'y est habitué. Une forme de malédiction, sans doute, dont il faut certainement chercher les origines dans le passé. Que peut-on y faire? 18 ans que ça dure. Le destin, en quelque sorte. Une logique du passé. Et en face, une logique du présent, qui est celle de Jésus, de l'ici et maintenant. C'est l'action instantanée, immédiate de Jésus qui guérit, qui passe par-dessus la fatalité. Alors bien sûr, dans ce passage, que vous connaissez très bien, on a souvent l'habitude de relever de la part de Jésus qu'il transgresse le sabbat, qu'il rompt avec les codes. C'est vrai, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Jésus a raison, répond dans cet épisode à une forme d'urgence. Guérir, soulager, délivrer, sortir de cette situation bloquée dont personne ne semble espérer sortir autour de lui. Agir au présent, sans chercher à justifier longuement par le passé ce qui arrive à cette femme. L'urgence est là. Elle n'est pas de discuter la responsabilité ou la culpabilité. L'urgence est de guérir. Et guérir pour cette femme, ça va aboutir en même temps à changer d'attitude bizarrement. Changer d'attitude. Et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu, précise le texte. On aurait pu la laisser mourir sur le parvis de la synagogue, ni plus ni moins coupable que les ouvriers de Siloé. En revanche, elle serait morte de la même manière qu'eux, sans savoir, sans connaître, sans comprendre. Alors nous l'avons vu dans ces épisodes, Jésus s'impatiente. Il s'impatiente contre un prêt à penser qui aveugle les foules. Et dans ce chapitre de Luc 12, le précédent, versets 54 à 56, voilà ce qu'il dit. « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt « la pluie vient » et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites « il fera chaud » et c'est ce qui arrive. Hypocrite. Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel, comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer? Jésus aurait pu le dire ainsi aujourd'hui, dans le langage de 2018, changer de logiciel. Vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. La foule autour de Jésus a les mêmes questions que nous. Pourquoi la souffrance? Pourquoi ce massacre des Galiléens? Pourquoi? Mais comme le souligne un commentateur, on ne vient pas à Jésus pour se faire expliquer la souffrance, le malheur et le mal. On vient à lui pour en être délivré. Et ceux qui entourent Jésus restent coincés dans un pourquoi. Pourquoi la souffrance? Dans une réflexion sans issue et vous savez le nombre de philosophes qui ont épuisé leur force et leur vie sur cette question-là. Face à cette impasse de la pensée, Jésus dit « Repentez-vous ». Oh, que je n'aime pas ce mot. Je n'aime pas ce mot, je le dis franchement, mais pour une raison simple, parce qu'il me rappelle un certain dolorisme, ces chemins de pénitence. D'ailleurs, repentance et pénitence, c'est la même racine. Ces chemins de pénitence qu'on a souvent imposés aux croyants comme un passage obligé pour obtenir le pardon. Faire pénitence, se repentir, oui, c'est la même racine. Poenitere en latin, avoir du regret, regretter. Mais c'est tellement associé à une image pieuse, je suis sûr que dans votre tête, vous avez tout de suite des représentations. C'est tellement associé à des images pieuses, ce mot, qu'il a perdu de sa puissance. Il a été usé. Et le mot qu'emploie Luc dans ce texte aujourd'hui, c'est le mot grec « métanoïa ». Métanoïa, ça se rapporte à un mouvement de conversion, de retournement, par lequel l'homme s'ouvre à nouveau à plus grand que lui, à plus grand que soi. Métanoïa, c'est un mot fait de deux parties. Méta, qui dans notre contexte veut dire transformation. Et noia, onus, esprit. Et cela nous donne donc la transformation de l'esprit. Quand Jésus emploie le mot changer d'attitude, c'est bien de ça qu'il s'agit ici, dans ce texte. Ce repentez-vous de Jésus, il veut dire beaucoup plus que repentez-vous, au sens classique où nous l'avons entendu toute notre enfance, peut-être, et dans notre société, marquée par les traditions. Il va beaucoup plus loin. Ce que dit Jésus là, c'est, et c'est très bien traduit dans la version seconde 21, changez d'attitude, transformez votre esprit. Transformez votre esprit. Vous voyez comment ça va bien au-delà de cette acception classique que nous avons de repentez-vous. On le traduit effectivement par repentance depuis longtemps, mais ce mot décrit bien un changement qui nous amène à percevoir différemment notre réalité, à nous voir tels que nous sommes, comme Dieu nous voit et nous connaît. Et puis ensuite, après, à réaliser effectivement l'écart qui nous sépare et en former une forme de peine. La métanoïa, c'est ce changement de position, d'attitude, qui nous fait réaliser notre position de pécheur. Nous nous voyons différemment. Et nous voyons surtout Dieu différemment. Il n'est pas le destin aveugle qui punit, il veut être connu comme le Dieu qui aime, avant tout. Un commentateur orthodoxe de ce texte dit que la repentance est le retour de la créature exilée vers le Créateur, l'ascension pour passer du terrestre au céleste, du conditionné vers la liberté. Et nous avons vu ce matin à quel point notre pensée peut être conditionnée. La souffrance, c'est une conséquence. C'est ça la pensée conditionnée à l'égard des victimes de Siloé. Mais rappelons-nous que tous les prophètes ont appelé le peuple, dès l'Ancien Testament, à la liberté. Ézéchiel 18, 31, 32. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau, car je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un. Changez donc d'attitude et vivez, dit le Seigneur. Ézéchiel 18, 31, 32. Jean-Baptiste dira lui-même, en introduisant la venue de Christ, un appel à cette transformation, à cette métanoïa. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. La question est de savoir si nous pouvons changer d'attitude. Alors oui, j'ai barré se repentir pour changer d'attitude. Est-ce qu'on peut changer d'attitude tout seul ? Mais la métanoïa n'est jamais de notre seule et unique initiative. Elle est une réponse à l'appel que Dieu ne cesse d'adresser à chacun. Là aussi, je citerai Ésaïe, « Le Seigneur m'a appelé dès le ventre de ma mère. » Et Paul dira aux Galates la même chose. Et puis encore, Jésus, chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc la métanoïa, c'est une rencontre de deux initiatives. L'initiative de Dieu qui appelle et notre réponse. Et cette transformation se fonde aussi donc sur notre décision, sur notre changement d'attitude. Dieu n'est plus fatal. S'il m'appelle, je répondrai. En conclusion, à propos de ce passage, Jésus se heurte, on l'a bien vu ensemble, à la conception erronée d'un Dieu fatal. Et nous nous heurtons aujourd'hui encore à la conception erronée chez nombre de nos contemporains d'un Dieu fatal. Et Jésus montre à ses interlocuteurs que Dieu est en fait un Dieu qui appelle. Où es-tu ? Et il attend que l'homme change d'attitude, puis se retourne et réponde. C'est un message qui vaut bien sûr pour celui, et peut-être parmi nous c'est le cas aujourd'hui, que Dieu appelle pour la première fois. Mais c'est aussi un message que Dieu adresse à une église installée, et je citerai un extrait en terminant par là, de la lettre adressée à l'église de Laodicée, Apocalypse 3:20. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Dans la suite de cet appel à changer d'attitude, eh bien, je vous invite à chanter le chant « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Regardez-en bien les textes, je pense qu'ils peuvent parler à chacun secrètement dans son cœur individuellement. Et ce sera une façon de nous souvenir de la lecture de ce passage et cette méditation. Et c'est pendant ce chant que nous recueillerons aussi les offrandes.
Chantez son nom. Merci de prendre place pour le temps des annonces.